Bien, bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir accueillir Pascal Cramer pour la sortie de son livre « Une famille ». Peut-on empêcher quelqu'un de se détruire? Cela fait presque 30 ans que ses parents, comme son frère et ses sœurs, ressassent cette question et tentent chacun à sa façon de sauver Romain de lui-même. Ce fils, ce frère, à la si déconcertante gentillesse, s'est patiemment abîmé, bouleversant malgré lui la vie de toute la famille. Donc, une famille, c'est le titre de ce livre de Pascal Cramer. Bonsoir et merci de venir avec nous nous en parler. Donc, c'est une famille en 5 chapitres. Olivier et Daniel, les parents, chacun a son chapitre, et les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble, Édouard, Lou et Mathilde. Et Romain, lui, n'a pas de chapitre, mais il est le sujet de ce livre. Et avant que les 5 chapitres ne commencent, il y a une page, très, très révélatrice de votre style. Alors, c'est très compliqué parce que ce livre est une énigme. On cherche Romain, donc on ne peut pas trop en lire. Mais en même temps, je pense qu'il faut d'entrée de jeu rentrer dans votre texte. Daniel avait un fils de 4 ans à l'époque où Olivier l'avait rencontré. Sur la photo glissée à la page du jour de son agenda, on le voyait courir sur le sable noir d'une plage à marée basse, bras en l'air, dans un élan gauche et blond, comme stupéfait. Le père, un pharmacien, avait disparu quelques mois avant sa naissance et n'avait refait signe qu'au bout de quelques semaines d'une clinique où il assommait de chimie une insondable dépression. Daniel était une femme d'espérance, de convention. Elle s'était mariée jeune et sans doute. En 2 ans de vie commune, elle n'avait rien deviné derrière les silences, les somnolences et les absences, des journées entières qu'il avait dit passer allongé dans sa voiture à simplement tâcher de respirer. Ses révélations, plus encore que sa disparition, avaient défait quelque chose en elle. De ce jour, disait-elle, elle avait accablé l'avenir de son fils de pressentiments que depuis, elle expiait. Olivier venait d'être nommé au tribunal administratif de Bordeaux. Il avait tout juste 35 ans, une haute taille légèrement voûtée de timide et une belle carrière assurée dans la fonction publique. Il s'était décidé au bout d'un an à demander Daniel en mariage, en se pensant alors suffisamment armé pour soutenir et le fils et les anxiétés de la mère à son sujet. Et d'une certaine manière, il l'avait été, dans la faible mesure où on peut porter les autres, devait-il se dire une fois de plus, près de 33 ans plus tard, en ces beaux jours d'avril où leur fille Lou les faisait grands-parents pour la 4e fois. Donc tout le roman se déroule avant l'accouchement de leur deuxième fille et juste après, dans les quelques heures. Et les 5 chapitres sont les 5...
membres de la famille.
Voilà, les 5... perception de récit de vie de la famille vu par chacun des membres de la famille. Et page 184, Lou, la seconde fille, celle qui vient d'accoucher ou qui vient d'accoucher, dit « On n'aura pas vécu une seule naissance en paix. » Elle pense à la naissance de sa fille, Jeanne, à celle de sa petite sœur, Mathilde, à celle de sa nièce, Clémence. Alors, on ne va pas tout raconter, mais pourquoi ce thème de la naissance qui, à chaque fois, réouvre une blessure dans la famille?
Alors, bonsoir d'abord, et puis merci d'être là. En fait, bon, quand on écrit, ça s'est un peu trouvé comme ça, et ce constat, je l'ai fait avec en écrivant ce personnage, ce point de vue de Lou, parce que c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que je suis partie d'abord pour écrire l'histoire de ce roman, dont on va comprendre, on peut déjà le dire, hein, je pense que ce n'est pas un secret, que c'est quelqu'un qui a un problème d'alcoolisme dément. Et donc, je voulais raconter cette histoire. Et puis, petit à petit, à force de donner la parole à chacun des membres, je me suis dit, mais en fait, je fais le récit de toute une famille. Et les familles, ben, c'est quoi? C'est des naissances, c'est des maladies, etc. Et il se trouve qu'effectivement, à chaque naissance, il y a quelque chose qui part en vrille, où il y a un gros souci. Et donc, voilà, c'est le constat que j'ai fait en même temps que le personnage. Là,
c'est quand même vous l'auteur.
144, oui, mais oui, c'est moi qui avais fait toutes ces naissances terribles. Et oui, on est quand même... Oui, c'est moi l'auteur, c'est moi qui décide. Mais effectivement, il s'est trouvé en cours d'écriture, parce que quand même, heureusement, on n'a pas toujours... on ne sait pas toujours tout dès le départ, et on se laisse porter par les choses. Et effectivement, il y a eu pas mal de soucis dans cette famille au moment des naissances.
Naissance de petite fille.
Ouais.
Donc c'est une famille qui est à la fois reliée par le souci commun qu'ils partagent de ce Romain, jeune garçon blond sans souci, mais qui sombre très tôt, dès la jeune adolescence, dans l'alcoolisme. C'est à la fois ce qui les relie, et c'est aussi ce qui disloque la famille, parce que chacun des membres de la famille a une relation différente avec lui, de honte, de compassion, d'aide. Et c'est cette relation différente qui finalement introduit des biais dans leur relation.
Oui, parce qu'ils se construisent vraiment tous en fonction de lui. Surtout la plus jeune sœur, ça va, leur rapport à ce frère va dépendre aussi de l'âge qu'ils avaient quand ils ont découvert ce problème. Par exemple, la plus jeune sœur, Mathilde, qui est en chapitre 2, elle est toute petite déjà, Romain, même déjà le jour de sa naissance, quand la mère a couché, Romain se saoulait. Et donc elle a connu que ce souci du frère. Et on sait dans les fratries, quand il y a un frère qui est un membre de la fratrie qui est soit très malade, soit justement qui fait vraiment des très grosses bêtises, forcément les autres sont un peu oubliés. Donc elle va être tout le temps avec ce souci-là, et elle va le vivre beaucoup plus que les autres frères et sœurs, qui finalement sont adolescents quand ça commence vraiment à se passer mal. Il y en a un, le frère Edouard, au début il le vit pas bien, il est très conformiste, et d'avoir un frère alcoolique, il le vit pas bien, il le vit comme une honte tombée sur la famille, et puis ensuite c'est lui qui va être le plus compassionnel. Et puis la sœur, l'autre, Lou, on va découvrir surtout à la fin quand elle intervient, elle est très proche de sa mère, et elle a vu sa mère pleurer, elle a entendu sa mère pleurer la nuit en appelant le père quand on a trouvé un jour Romain ivre sur une plage, et elle va essayer de compenser, de consoler les parents. Donc en fait chacun se construit vraiment en fonction de ça, et puis c'est une famille qui ils sont très c'est des gens bien, c'est des gens qui sont très démunis face à ça, et qui vont essayer de se préserver les uns les autres aussi. Tout le monde ne sait pas la même chose, Romain ne se montre pas de la même façon à chacun d'entre eux, et tout le monde se protège, ce qui fait qu'il y a pas mal de non-dits, mais qui sont des non-dits bienveillants.
Oui, mais ces non-dits bienveillants, c'est secret pour protéger l'autre. Est-ce que finalement, il ne
n'aggrave pas
la situation ?
Alors moi, j'ai vraiment essayé dans ce livre parce que moi, j'ai vécu dans un foyer à Paris où il y avait des gens qui avaient vécu à la rue. J'ai vécu pendant un an et demi dans cet endroit, et donc j'ai vraiment connu des gens comme ça qui se tuent d'alcool. C'est vraiment quelque chose de fou. Et donc j'ai vécu ce sentiment. Certains faisaient des cures, arrivaient à être en rémission pendant un certain temps. On voyait la souffrance au quotidien que c'était de lutter contre cet alcoolisme, et puis paf, on retombait. Et donc j'ai vécu ce sentiment d'impuissance et de tristesse, parce que c'était beaucoup des hommes délicieux comme l'est ce Romain. Donc moi, j'ai pas essayé du tout de chercher des responsabilités dans cette famille, ni de dire qu'ils s'y prennent mal, parce que je pense qu'il n'y a pas de façon de s'y prendre bien, vu que c'est vraiment une maladie, c'est une incapacité à vivre, et que quoi qu'on fasse, c'est un peu voué à l'échec. Donc j'ai vraiment pas du tout cherché ni à trouver des causes psychologiques ou des histoires dans l'enfance. Il y a un père biologique qui avait des gros soucis de dépression très grave, donc on peut se dire que ça vient de ça peut-être. La mère, évidemment, qui est qui culpabilise le plus, elle va se dire que peut-être elle n'aurait pas dû avoir d'autres enfants, parce que les autres sont très, très vifs tout de suite, très brillants, et donc c'est peut-être une compétition qui est insupportable. Peut-être qu'ils avaient trop d'attentes, mais s'ils n'en avaient pas eu du tout, peut-être que... Enfin, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de coupable, mais effectivement, chacun fait avec comme il peut, avec ce qu'il a, et ça donne ce que ça donne.
Et chacun fait différemment. Ouais. Vous ne jugez jamais, ça n'est ni bien ni mal. Effectivement, il n'y a pas de cause, il y a ça. Alors vous dites, c'est des gens bien, c'est des gens plus que bien, c'est des gens extrêmement droits. Lui est magistrat à la retraite, elle est prof de yoga, donc tout le monde file droit.
Ouais.
Est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose qui va les empêcher d'accepter la déviance, enfin, si tant est qu'on puisse accepter la déviance?
Oui, mais je pense pas qu'ils l'acceptent moins bien, parce que c'est vrai que c'est des gens... plutôt bourgeois, très, très traditionnel. Mais je pense que personne peut... D'abord, ils sont dans le déni pendant longtemps. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose... Surtout que Romain, évidemment, il est très habile à cacher ça. Donc, on est tout le temps entre est-ce que c'est très grave ou est-ce que ça va passer. Donc... Finalement, ils se sentent pas. Il y a peut-être que Édouard, à un moment donné, à jeune ado, qui assume pas ce fait. Mais on apprend que dans le reste de la famille, ça a été vécu aussi. Ça a été vécu comme un drame, mais pas comme une honte ou quelque chose de pas acceptable. Après, effectivement, eux, c'est des gens. A priori, on se dirait qu'ils avaient rien. Enfin, ils n'étaient pas du tout destinés à vivre ça. Mais là, encore une fois. Alors, dans les gens que j'ai pu connaître, moi, dans ce foyer, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient des histoires familiales complètement déglinguées. Donc, bon, ça, effectivement, il y a des gens, dès le début, c'est quand même très, très mal parti. Mais il y en a aussi dont les parents sont très bien. Moi, je suis allée l'autre jour en retrouver un qui est à Nice maintenant, qui est retourné à Nice, qui est en rémission pour l'instant, mais on ne sait pas combien de temps. Il a une mère formidable. Et elle me disait, ben voilà, la première petite contrariété, on sait qu'il va replonger. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et moi, j'avais pas envie de mettre une famille trop déglingue, parce que vraiment, ça aurait été un livre beaucoup trop lourd. Je voulais montrer des gens qui, voilà, qui ont par ailleurs des vies. Le couple s'aime beaucoup. C'est des gens qui ont une soixantaine d'années. Ils s'aiment encore. Il y a même encore du désir. Enfin, c'est des gens, voilà, qui avaient tout pour être heureux. Puis voilà, ça n'arrive jamais d'être complètement heureux.
Alors, j'imagine que vous faites la tournée partout en France pour parler de ce livre, mais il se trouve que vous êtes à Bordeaux, oui. Et que l'histoire se passe à Bordeaux aujourd'hui. De leur balcon, on voit la Garonne, mm-hmm. On loue un petit studio pour ce Romain quand il ressurgit à la Bastide. Le rendez-vous se fait quai des Marques. C'était important, ce cadre bordelais, social, bourgeois, installé.
Alors, c'était pas... effectivement, après, il s'est trouvé que ça tombait bien, parce qu'on peut se dire qu'il y a effectivement cette image de ville assez traditionnelle. Mais moi, ça a été vraiment... Le choix des lieux, bon, on écrit aussi, on aime se faire plaisir. Et moi, je connais peu Bordeaux, mais j'y suis venue plusieurs fois et j'ai trouvé cette ville magnifique, j'ai adoré ce cadre. Et donc, voilà, on se fait, il y a aussi un plaisir de description, un plaisir de lieu. Et puis, moi, je vis à Paris et c'est vrai que je n'arriverai pas à situer un livre à Paris que je connais trop bien, finalement. C'est finalement bien d'avoir une... Parce que quand on ne connaît pas trop les lieux, on en garde une vision très graphique. On garde une première impression qui est ce fleuve, qui est la couleur des toits, qui est et puis finalement c'est pas mal d'être avec juste ces touches comme ça. Dès qu'on connaît trop, après on rentre trop dans le détail, on perd l'esprit en fait.
Effectivement, c'est un cadre.
Oui, voilà.
Et c'était parfait, même graphiquement, pour évoquer la sortie du cadre et le caniveau. Mais quand même, tout est très, très feutré. Vous dites qu'ils s'aiment toujours. Bon, il y a quand même des petits tiraillements, mais ça ne va jamais au-delà de l'agacement. Le mot agacement
revient. Voilà, ça arrive.
C'est un milieu très policé,
Oui, c'est des gens d'une... C'est un peu une génération qui n'existera bientôt plus, de gens bien, qui ont un sens très profond des responsabilités, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, puis qui ont de la politesse, de la courtoisie l'un envers l'autre. D'ailleurs, je crois que je le dis, il y a quelque chose, il y a une courtoisie dans le couple, hein, et je pense que c'est aussi une façon de bien faire tenir le couple, c'est d'avoir cette espèce de petite distance qui fait qu'on n'en vient jamais à se dire à aller justement au-delà de l'agacement. Mais en plus, ce sont deux personnes très aimables, et donc on comprend qu'ils continuent à s'aimer.
Et d'ailleurs, un soir, en rentrant de chez des parents plus bohèmes, Daniel dit à Olivier, mais on est peut-être trop tradis. Et pour un peu casser ça, elle fait très chaud sur les quais, elle quitte ses sandales et elle s'autorise à marcher pieds nus. Voilà, ça c'est la transgression ultime de Daniel.
Puis surtout, c'est dans une réunion de parents d'élèves, et il y a le père d'un copain de Romain qui est argent d'artiste, donc qui est un peu plus bohème. Et c'est vrai que Olivier comprend cet homme a trouvé Danielle très, très belle. Et elle l'a compris aussi. On comprendra à la fin que cet homme va lui avoir fait du charme. Donc le couple a aussi ses petits secrets parce que peut-être tout à coup, elle se dit qu'elle aurait pu être dans une autre vie avec un autre homme. Mais voilà, c'est des choses, je pense, que tout le monde passe par ce genre de pensée par moment.
Le fantasme.
Oui.
Mais là, on l'explicite et en même temps, c'est une histoire de sandales et de pieds sur le...
Oui, c'est...
C'est pas un roman psychologique du tout. Rien n'est jamais expliqué, développé, analysé. C'est pas du tout...
Non, parce qu'on est en fait dans chaque chapitre. Ça, c'est... Bon, alors moi, je fais toujours ça. J'aime bien raconter les histoires comme elles nous sont racontées dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais que son propre point de vue... ce qu'on comprend, soit ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on croit comprendre des autres, ce qu'on entend, ce qu'on dit, etc. Donc je suis toujours dans une subjectivité, et dans ce livre-là, pour la première fois, je suis passée d'une subjectivité à l'autre, mais donc on est à l'intérieur d'une personne qui dit pas « je », mais enfin on est dans ses pensées, et donc on vit ce qu'elle vit. Donc effectivement, Olivier, il rentre de cette soirée, il a compris que cet homme avait trouvé sa femme jolie, il l'avait enlevé ses sandales, tout d'un coup il se dit « tiens, peut-être qu'elle aurait aimé être autre chose ». Mais c'est juste, voilà, on s'en dit guère plus dans la vie.
C'est
en fait.
Nous qui construisons.
Mmh. Oui, après on construit ce qu'on veut. Ouais.
Et... c'est vrai que les cinq chapitres, c'est cinq fois la même histoire autour des quelques heures de la naissance de Jeanne, mais comme il y a des flashbacks, ça rebalaye les 30 ans, de, 30 ans de vie. Et malgré tout, on avance, puisque le récit, à la fin, on ne va pas raconter la fin, mais voilà, le récit avance, avance comme ça, petit peu, comme, bon, c'est un puzzle, et à chaque fois, on en apprend un peu plus, parce que chaque membre de la famille en sait... on sait un petit peu,
on va découvrir quelque chose. Ouais. Juste à propos du puzzle, c'est vrai que c'est la première fois donc je passais d'un personnage à l'autre et du coup ça m'a permis de faire. C'était très enfin c'est la première fois que je fais une construction comme ça qui est un peu plus complexe et savante de ce que je faisais d'habitude, qui m'a demandé plus de d'ailleurs qu'a demandé une d'avoir de me faire vraiment des repères de temps parce que on est amené à revivre certaines scènes, par exemple quand Mathilde arrive de Barcelone, donc la plus jeune sœur arrive parce que sa sœur a accouché, donc elle vient faire une surprise à sa sœur. Elle arrive dans l'appartement et est reçue par son père. On vit d'abord cette arrivée du point de vue du père et ensuite on le vit du point de vue de Mathilde. Et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant de faire, en tout cas pour moi, qui aime creuser les personnages, de les voir, de voir des situations vues par l'un, vues par l'autre. Ça permet vraiment d'aller plus loin dans la connaissance des personnages. Et j'ai vraiment. Mais alors après, ça demandait effectivement un travail de script comme sur un tournage où il fallait bien que Mathilde arrive. Ah oui, il est 3 heures. Il ne faut pas qu'il soit 5 heures pour les. Enfin, voilà. Donc c'était toute une construction qui m'a. J'ai vraiment trouvé ça intéressant d'un point de vue romanesque. Quoi. C'était une découverte.
Et justement, techniquement, comment est-ce que vous faites ? Je me suis demandé dans quel ordre vous aviez écrit ces chapitres. Est-ce que vous avez des post-it ? Enfin, racontez-nous un peu la cuisine.
Alors, la cuisine, en fait, donc, au départ, moi, je voulais raconter cette histoire d'addiction terrible. Alors après, j'ai cherché par quel point de vue, par quel personnage raconter cet homme addict. J'ai eu l'idée de ce personnage de père. J'avais envie d'un homme bienveillant, un homme un peu âgé, qui a un regard tendre sur un autre homme. Et puis, donc j'ai commencé, j'ai imaginé cette famille, et j'ai commencé par Olivier. Et l'idée de départ, c'était de raconter toute l'histoire du point de vue d'Olivier. Et puis, quand je suis arrivée à la fin de ce qui tout à coup s'est avéré être un chapitre, Mathilde arrivait à la fin, et j'ai eu envie de commencer avec Mathilde. Et donc, j'ai fait le deuxième chapitre. Et puis après, je me suis dit, ce sera un coup à Olivier, un coup Mathilde. Puis en fait, d'un coup, j'ai découvert justement tout ce que ça m'apportait de regarder, de revivre les scènes. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse chacun. Et je l'ai fait au fur et à mesure. Et vraiment un peu dans l'instinct. Mais alors après, tout à coup, je crois que c'est au troisième personnage, là, je me suis dit, bon, là, il faut un peu que je mette noir sur blanc, enfin, que je fasse un peu des schémas. Aussi, je me suis même fait un tableau Excel avec les dates, parce que finalement, on couvre 30 ans de vie, et donc qu'il n'y ait pas d'incohérence, donc avec les âges, les dates de naissance, les âges et à quel âge à chacun, à tel événement phare, pour que... Et d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai dû donc redétricoter un petit peu certaines choses parce qu'il y avait des incohérences. Et voilà,
Mais c'est très réaliste quand on pense à une famille. Il avait quel âge ? Ben non, à cet âge-là, lui avait 8 ans, donc voilà. Elle avait 13 ans. Donc, bon, c'est exactement comme ça qu'on appréhende une famille.
Oui.
Et c'est très kamikaze. Enfin, c'est compliqué ce que vous avez fait parce qu'ils grandissent.
Oui,
Romain,
oui.
On le voit petit et jusqu'à l'âge adulte. Enfin, oui, c'est un jeune adulte.
Oui.
On les voit jeunes, on les voit se marier. Mm-hmm. Ensuite, c'est très. Et ils ont une conversion à chaque fois. En grandissant,
il change.
Édouard, vous l'avez dit, était dans la honte par rapport à son frère, et ensuite c'est presque grâce à son frère qu'il se marie. C'est autour du secret, autour de Romain, qu'il rencontre sa femme Clémence.
Oui, et puis que tout d'un coup il a un but à sa vie. Enfin,
lorsque Lou se dispute avec son mari, la jeune accouchée, c'est aussi plus ou moins à cause de Romain, parce qu'elle souhaiterait qu'il soit le parrain de l'enfant et Jean-Baptiste. En fait, on appelle ça les pièces rapportées, les valeurs ajoutées de la famille, qui tiraille, qui lutte.
Oui, bien sûr. Puis qui se font imposer ça, cette histoire, et donc qui aiment malgré ça ou grâce à ça. Enfin, voilà, il y a. Oui, de toute façon, quand on épouse quelqu'un, on épouse un tout, on épouse une famille. Hein, ça, on le dit assez. Et c'est vrai que ce frère joue un rôle forcément dans les relations que les autres entretiennent avec leur conjoint.
Et dans le texte qu'on a lu, avant que ne commencent les 5 chapitres, tout de suite, on dit qu'ils ont 4 petits-enfants, ce couple. Mais finalement, ils sont un peu laissés à l'abandon, les petits-enfants, y compris celui qui a un terrible cancer.
Enfin, ouais.
C'est vraiment une famille plombée dès le départ.
Oui. Bon, il y a quand même après des bonheurs aussi. Hein, quand Lou, elle réalise que voilà, il y a Romain à un moment donné va disparaître pendant plusieurs années, et elle, quand ils vont découvrir ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années, elle se dit pendant toutes ces années, moi j'ai passé mon bac, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin voilà, c'est que ils ont quand même vécu.
Mais c'est presque un répit, c'est eux qui sont en rémission pendant que le fils disparaît. Alors, justement, il y a tous ces secrets de famille. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on appelle un secret de famille, mais des secrets dans la famille. Et il y a un petit moment de confidence, de connivence, quand les enfants deviennent adultes et que tout d'un coup, on leur raconte des choses. Et vous avez gentiment accepté de le lire. Donc, c'était... c'est quand Édouard, le fils aîné de Clémence...
Ouais.
Daniel descend à Cahors et il passe un petit temps comme ça
dans le jardin
avec le fils aîné, et ils ont une conversation moins de mère et fils, lors de la confidence qui est assez rare dans cette famille.
C'était 3 ans plus tôt, une semaine après qu'Édouard était venu leur annoncer à la fois qu'il se mariait et qu'il avait renoué avec Romain à Paris. Il lui avait fallu plus d'un mois pour parvenir à prononcer ces mots impensables, il est à la rue, et dire tout le reste qui était impossible à entendre pour une famille. Le duvet ignoble macérant dans un empilement de cartons rongés, le visage décharné, noyé de barbe sale, le regard amnésique au fond des orbites de momie. Édouard avait œuvré chaque jour à lui trouver un abri pour la nuit en attendant qu'une place se libère dans un foyer où il puisse refaire surface petit à petit. Romain avait juré de revenir se soigner mais ne souhaitait voir personne pour l'instant. Édouard l'avait attendu en vain à la gare au moment de repartir. Il était désolé de ce peu d'espoir rapporté malgré tout et dont il ne tirait aucune fierté. Tout était devenu soudain si dérisoire. Lou n'était pas là, mais Mathilde et Olivier, oui. Daniel avait écouté cet hallucinant récit sans le regarder, ni pouvoir prononcer un mot, ni supporter le moindre geste vers elle. Leur étude, leur retenue parfaite face à elle que tout accusait dans le naufrage de son fils, était à hurler. Alors elle s'était simplement retirée sur le balcon où elle était restée à supplier la nuit, se retenant de tomber, en plein vent et lumière des projecteurs coulant de l'or sur les façades le long des quais. Mathilde et Édouard s'étaient mis à débarrasser la table en silence. Daniel les avait vus ensuite discuter dans le couloir avec leur père et Mathilde s'effondrer dans ses bras. Certainement à contre-cœur et extrêmement choqué par l'égoïsme de son attitude, Olivier avait passé la nuit sur le lit d'appoint de son bureau, une petite lampe laissée allumée à côté de la porte entrouverte. Daniel n'avait plus assez de bonté pour s'associer à sa douleur à lui. Seule la culpabilité était encore partageable et Olivier n'y avait aucune part.
Merci, alors je me suis trompée de passage. Oui, je me suis dit de passage. Donc là, c'est l'annonce, l'annonce de la... on a retrouvé Romain après 8 ans d'absence. Et c'est intéressant que vous ayez accepté de lire cet extrait parce qu'on a les cartons, le duvet, on a vraiment énormément de détails concrets.
Oui.
Et on sent ce qu'est la détresse de cette famille et la situation. Et à quel point ça peut... Donc, depuis le départ, Daniel et Olivier sont présentés comme un couple parfait, mais à quel point ça peut miner de l'intérieur un couple et des liens familiaux.
Ouais. Et ça, j'avais envie, alors à la fois de dire vraiment ce que c'est que d'être à la rue, hein, c'est dans des duvets pleins de merde, enfin, ceux qui se laissent, il y a des gens qui sont à la rue qui ne sont pas du tout dans des addictions graves et qui arrivent à être relativement propres, même si ce n'est pas facile, mais après, il y en a qui se laissent complètement aller, et c'est vrai que c'est terrible parce que c'est vraiment, ça renvoie à l'idée où commence l'humanité, où est-ce qu'on... Je le dis plusieurs fois, il a été absent à sa propre humanité. Enfin, et puis surtout, il y a une absence à la douleur. Il y a c'est des trucs de fous. L'état physique dans lequel on retrouve ces gens, c'est complètement fou. Donc j'ai voulu le dire, mais il y a très peu de... Enfin, il y a des vrais mots, mais il y en a très peu dans le livre parce que je ne voulais pas non plus tomber dans le sordide. Mais voilà, j'avais envie qu'on ne se raconte pas d'histoire, c'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, pour des familles, c'est complètement fou de se dire ça.
Il y a une cicatrice qui est très emblématique, si vous voulez le raconter.
Oui, il y a d'une brûlure de cigarette entre les deux doigts. Et donc, ça veut dire que la cigarette s'est consumée et que... l'a brûlé sans qu'il en prenne conscience. Et ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu chez une femme qui avait été très longtemps à la rue. Et donc là, ça, c'est fou. On se dit que ce soit possible. Et effectivement, pour une mère, ce n'est pas possible de voir ça.
Pour tous les membres de la famille, de voir cette chair brûlée à laquelle lui, il ne pense peut-être probablement plus. Mais c'est un stigmate qui est invisible et qui est insupportable.
Ouais.
Mais pourquoi ce thème, enfin, pourquoi avoir passé un an et demi, j'imagine que c'était pour vous documenter.
Non, parce que c'était pas du tout l'idée du livre est venue après. Non, alors c'était plutôt en tant que citoyenne, en fait, que je suis allée dans ce lieu. J'en ai entendu parler parce que je connaissais quelqu'un qui avait habité. Donc c'est un foyer à Paris qui est ce qu'on appelle un CHS, donc un centre d'hébergement et de stabilisation. Donc l'idée, c'est pas des centres d'hébergement d'urgence, c'est des lieux où les gens ont 3 ans, 4, 5 ans pour essayer de se remettre un petit peu en ordre, hein, ou en tout cas se remettre en mouvement et puis ensuite aller plus loin. Bon, ça c'est très théorique parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai, et donc la plupart de ces centres, ils ont des gardiens, des femmes de ménage, enfin, etc. Et puis les gens sont entre eux, et là c'est un centre qui est dans le 15e à Paris. Et l'idée, c'est de mélanger ces gens-là avec des gens qui sont dans la vie active. Donc, c'est dans un ancien couvent. Donc, il y a il y a 3 étages de 8 chambres, de petites chambres de nonnes. Et donc, il y a par étage 5 personnes qui viennent de la rue et 3 qui sont dans la vie active. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de gardien ni rien, vu qu'on vit ensemble, et puis que ceux qui sont un peu plus ordonnés que les autres essayent de gérer un peu le... Et voilà. Et donc, je connaissais quelqu'un qui était allé, qui m'avait... et moi, j'avais déjà eu l'occasion, une fois, de faire ce qui était supposé être des ateliers d'écriture, mais qui était devenu plutôt des moments de discussion avec des gens qui avaient vécu à la rue. Puis j'avais adoré... Parce que beaucoup, c'est des vrais marginaux, quand même. C'est des gens qui ont des vies de fous, qui ont fait des trucs invraisemblables, puis qui sont assez... c'est des personnalités. Et moi, j'avais adoré être avec ces gens. Et donc, quand j'ai connu cette amie qui vivait dans ce lieu. Je suis allée voir, mais moi, je suis une célibataire endurcie, j'ai toujours vécu seule. Et donc, je me disais, oh là là, un appartement à 8 filles avec une salle de bain, je voyais pas trop le truc. Puis petit à petit, je me disais, mais ils cherchaient du monde et j'avais la possibilité de le faire. Et je me suis dit, bah, il faut essayer. Puis j'avais aussi envie de voir si j'étais adaptable parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis allée là-bas. Et ça a été vraiment une expérience très bouleversante, très... Enfin voilà, j'ai gardé des liens extrêmement forts avec le lieu, avec certaines personnes. Voilà, ça a vraiment été quelque chose d'important dans ma vie. Et puis justement, j'ai rencontré ces gens, je me souviens, il y avait deux étages, enfin il y a toujours, hein, ça existe toujours, il y a deux étages de garçons et un étage de filles. Et je me souviens que les garçons avaient été chercher dans le métro un type qui était vraiment dans un état pas possible. Et qui était un cuisinier hors pair. Et quand il s'est remis à peu près, il nous faisait des repas, mais de fou, quoi. On a mangé là-bas extraordinairement. Donc c'était vraiment, vraiment, voilà. Moi, je vis à Paris depuis 30 ans, et c'est vrai que, voilà, des gens à la rue, enfin, on descend de chez soi et on en voit. Et c'est aussi une façon d'apprivoiser un petit peu ce monde-là. Et c'est vrai que maintenant, moi, j'ai plus peur. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques très importants, donc qui piquent des crises, qui sont dans des paranoïas pas possibles. Et maintenant, si j'entends quelqu'un gueuler, ça me fait pas peur. Et même, je sais qu'il faut parfois juste écouter, parce qu'en fait, quand les gens gueulent, tout bêtement, c'est qu'ils ont envie qu'on les écoute. Et comme les gens partent, ils gueulent encore plus fort. Et voilà. Donc, ça permet aussi d'apprivoiser le milieu où on vit. Et c'est vrai que maintenant, il y en a énormément à Paris. C'est vraiment fou, quoi.
Et vous dites ce monde-là, mais en fait, c'est le même monde.
Oui, c'est le même monde, mais c'est quand même une marge.
C'est le même monde, c'est la marge de cette famille-là. Et comme Romain a perdu sa propre humanité, c'est vrai que c'est une grande responsabilité de se dire qu'on est le seul lien avec lui. Enfin, on peut aussi le laisser comme on laisse tous les clochards que l'on croise. Mais quand c'est de la famille, c'est une responsabilité énorme.
Mais beaucoup aussi ont fui leur famille. Hein. Il y a énormément... justement, récemment, il y a un des gars du foyer qui est décédé. On n'a jamais retrouvé sa famille. On n'a pas pu les prévenir. Il est enterré au carré des indigents en dehors de Paris. Et voilà, on ne sait pas. Et c'était un type très chouette. Et donc... Mais effectivement, alors bon, il y a des familles qui ne cherchent pas à savoir. Il y en a qui découvrent souvent à la mort de la personne qu'il était à la rue. Il y a des gens qui ne savent pas du tout. Parce qu'effectivement, là, Romain, c'est typique. Il veut les préserver ou en tout cas, où il veut pouvoir s'adonner à son alcoolisme sans qu'on essaye de l'en empêcher. Parce que c'est ça le truc terrible. C'est que d'abord, il aime ses parents. Enfin, il aime sa famille. Donc, c'est difficile de faire du mal aux gens. Ils sont obligés de mentir tout le temps, parce que comme on ne veut pas qu'ils boivent et qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, ben, donc ils sont dans le mensonge, dans les petits larcins, parce qu'il faut payer cette consommation d'alcool. Et il y a un moment où c'est plus simple de fuir carrément.
Et d'ailleurs, on le retrouve à Paris. Il y en a beaucoup plus à Paris qu'à Bordeaux. Et quand on croise quelqu'un comme ça dans le caniveau, moi, je me demande toujours, mais quelle enfance il a eu, quel jouet il a eu. Et on voit que Romain est un enfant très choyé. Enfin,
très doux, très, très chouette avec ses frères et sœurs. Alors, tout le temps, quelqu'un d'un peu éteint, mais avec beaucoup de charme, avec beaucoup de... Et c'est vrai que moi, je dis toujours, dans ce foyer, j'ai eu la chance, le privilège de découvrir qui peut y avoir derrière ces gens-là. Et vraiment, c'est très, très étonnant. Il y a aussi des cons. Il y a aussi des cons racistes, têtus, enfin, peintres. Il y a aussi des gens un peu bornés. Il y a tout. Il y a des grands fous. Et puis, il y a des gens délicieux.
Alors, vous disiez que vous étiez allé là. Ben, c'est un peu comme un atelier, une résidence d'artistes, mais une résidence d'écrivains. Mais on avait besoin de vous. Enfin, on a besoin que des gens comme vous aillent dans ce foyer.
Non, alors là, la résidence, les ateliers d'écriture, ça, j'avais fait dans un accueil de jour. Et puis, j'avais vraiment aimé ces gens. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce lieu que j'y suis allée, je me suis dit, tiens, j'ai envie aussi de retrouver ces gens. Ils ont surtout besoin... de gens qui soient dans la vie active et puis qui ramènent un peu de fiabilité.
De départ au voilà. travail, de
revenir. Voilà, et puis, de rythme. Et puis des gens qui... Il faut aussi y aller avec une envie de partage. Et puis, et alors, on ne les sauve pas. Alors, il y a beaucoup... Moi, j'avais quand même... Déjà, j'étais plus âgée que la plupart qui faisaient ça. Et donc, j'avais déjà eu cette expérience aussi avec des gens donc dans cet accueil de jour. Et j'avais bien compris que sauver les gens, c'est bien grande ambition. Donc, je n'avais pas d'ambition aussi grande que ça. Je me disais, si on peut déjà être bien ensemble, c'est déjà pas mal. Mais il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient plus jeunes, qui venaient en se disant, je me dévoue, et puis qui attendaient inconsciemment un retour sur investissement. Et puis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, par exemple, celui que je suis allée voir à Nice, lui, c'était vraiment celui qui a le plus inspiré ce livre-là. Qui buvait de l'eau de Cologne quand
Romain aussi.
Oui, oui, voilà. Oui. Et c'est vraiment, il buvait toujours seul, donc il amenait des bouteilles dans sa chambre et puis ensuite il les vidait, mais c'est dingue les taux d'alcool qu'il pouvait avoir dans le corps. D'ailleurs, il a failli mourir plusieurs fois. Et c'était dingue à quel point il arrivait, parce que moi, quand je suis rentrée au foyer, ça faisait 2 ans qu'il avait arrêté. En principe. Et je me souviens un jour, on avait un petit soupçon qu'il avait recommencé, mais il cachait très, très, très bien son jeu. Et un jour, je l'entends parce qu'il y a une espèce de cour. J'entends du bruit. Je regarde à la fenêtre et je le vois. Il revenait des courses avec son caddie. Il était complètement titubant. Il se tenait au. Donc, je l'ai aidé à aller jusqu'à sa chambre. Et puis, je ne savais pas quoi faire, s'il fallait que je prévienne les. Et puis, une demi-heure après, il m'appelle avec une voix absolument normale. En me disant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un malaise, t'inquiète pas, etc. Et donc, une capacité à donner le change qui est vraiment dingue. Quoi.
Il y a la capacité à donner le change et de l'autre côté, il y a le déni.
Oui,
Quand on ne veut pas voir, mm-hmm. quand la famille ne veut pas voir, ça peut
oui,
durer
ça peut être, oui, ça peut,
un certain ouais. temps. Il y a un mot, je ne sais pas si, qui circule tout au long du roman. Page 18, 21, 22, 25, 33, 59, 70, 82, 83, 89, 98, 107, 118, 129, 148, 174, 179.
Alors, c'est lequel ?
Vous ne savez pas. Alors, ça rime presque avec le mot famille. C'est le mot fatigue.
Ah, oui.
Il y a le mot fatigue. Alors, Mathilde rentre de Barcelone en bus par un souci d'économie. On peut être fatigué. Une jeune accouchée, elle est fatiguée. Mmh. Et ce mot, il affecte
tantôt... Il y a une fatigue
tantôt,
à vivre aussi, oui.
C'est ça. Tantôt les uns, tantôt les autres, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ils sont tous fatigués. Et finalement, la famille, ça fatigue. La famille, c'est fatigant. Et je me suis demandé si c'était... Alors, il y a Romain qui court évidemment tout au long du livre, mais est-ce que vous en êtes consciente de ce
Non, alors, j'ai même... Mais peut-être que si, à la relecture, à un moment donné... Enfin, je n'arrête pas de me relire, moi, je relis.
C'est pas un reproche sur une répétition.
Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui apparaissent par livre, en fait. Moi, j'aurais pensé que c'était chagrin qui... Parce que je pense que ce mot, il y est beaucoup aussi, chagrin.
Ah, mais je ne l'ai pas repéré.
Ah oui, c'est...
J'ai repéré la fatigue.
La fatigue, oui, oui, non, mais c'est vrai qu'elle y est beaucoup.
Encore une fois, c'est une prof de yoga, un ancien magistrat, tout le monde se tient droit, mais tout le monde en a marre de se tenir droit. Mais c'est une fatigue,
et puis parce qu'ils sont mis, voilà, oui. Et puis c'est parce qu'ils sont mis à l'épreuve, vraiment.
Oui, mais ils ne craquent pas non plus. Non. Alors j'ai lu dans la presse que... Parfois, on disait que certains des membres de cette famille étaient égoïstes. Et dans l'extrait que vous venez de lire, Olivier reproche presque à sa femme d'être égoïste. Est-ce que vous êtes d'accord
Non,
avec ça
moi, je ne trouve pas qu'il... J'ai été très surprise. Il y a quelques... C'est toujours intéressant. En fait, comme je ne dis pas ce qu'il faut penser, enfin, je ne donne pas une analyse objective de la situation, on est dans la tête des gens. Et effectivement, chacun ressent les choses comme... mais je sais qu'il y a eu quelques, pas beaucoup d'ailleurs, mais il y a eu quelques articles où on me disait que les gens d'abord étaient que c'était le fils maudit, alors que c'est pas un fils maudit, c'est un fils qui rend tout le monde très triste, mais c'est pas un fils maudit. Et puis aussi qu'il y avait de l'égoïsme. Moi, je trouve Pas
il y a
du
de la
tout.
Solitude plutôt.
Il y a de la solitude, voilà.
Seul,
oui, oui, oui,
parce que chacun dans sa place, dans la frappère, comme fils, personne n'a la même place, donc personne n'a la même position pour vivre les choses.
Oui, bien sûr. Et là, il y a juste ce passage-là, effectivement, où c'est Daniel qui se souvient de ce moment où donc, leur fils Édouard arrive et leur dit « Romain est à la rue, ça fait 8 ans qu'il a disparu, Romain est à la rue ». Effectivement, pour la mère, qui est la mère biologique, c'est impossible à entendre, et donc elle a une réaction, et puis elle se dit aussi que, oui, effectivement, un peu égoïste, enfin, qu'elle doit avoir l'impression qu'il n'y a que elle qui est coupable, et qu'il n'y a que elle qui souffre autant, et donc elle n'arrive pas à parler aux autres, donc elle part sur le balcon, et son mari comprend qu'elle ne veut pas, mais lui, c'est elle qui devine qu'il la trouve égoïste, et donc il va dans il respecte, parce qu'il est... quelqu'un d'aimant et de bien élevé. Il respecte en allant dormir dans le petit bureau, mais il voudrait peut-être davantage partager. Mais c'est vrai qu'elle se dit forcément qu'elle est... Parce que c'est elle qui a apporté cet enfant à cette famille. Et c'est vrai que c'est une c'est compliqué.
Elle est la seule à avoir un lien de sang avec cet enfant, donc elle se sent responsable, elle ne partage rien, elle endosse tout. Et c'est très fatigant, là aussi.
Oui.
Alors, l'extrait que j'avais lancé tout à l'heure sur le moment d'intimité entre un fils devenu adulte et sa mère, j'avais envie qu'on le lise parce que il est vraiment révélateur de votre...
Alors je vous laisse le lire parce que
il est vraiment révélateur de votre style sur les... c'est pas sur le non-dit, tout est dit, mais dans des détails, les odeurs, les brins d'herbe, et puis le reste, c'est à nous de le... Il était à peine 13 heures, mais Édouard ne trouva personne au deuxième. La minuterie s'était éteinte. Dans la pénombre des étages, lui parvenaient des notes de piano que couvrait parfois le tremblement d'air d'un camion filant sur les quais. C'était rare que ses parents soient sortis tous les deux à 7 heures de la journée. Depuis qu'il était à la retraite, son père avait ses routines, des routines de vieux monsieur auxquelles il dérogeait peu. C'est ce que lui avait dit sa mère quand elle était venue en week-end chez eux à Cahors. Elle en parlait comme d'une épreuve pour leur couple. C'était en septembre de l'année précédente, le premier dimanche où il avait fait assez doux pour pouvoir dîner dans le jardin. Thibault se relevait presque sans séquelles de plusieurs mois de traitement et eux renouaient tant bien que mal avec la vie laissée en plan si longtemps. Cette normalité revenue avait autorisé la confidence de sa mère, la première déception intime qu'Édouard l'ait jamais entendue exprimer. Elle arrivait directement du Cap Ferret, portait un juste au corps pastel, éclatant à son décolleté que le soleil avait piqué des pargrains de peau plus sombres. Édouard gardait des timidités de petit garçon face à son allure, à sa tenue. Ses parents avaient toujours protégé leurs failles et entretenu la légende d'une passion qui n'aurait jamais faibli. Mais même du temps où il leur fallait aller ramasser leur fils, affalé au cinquième, rien ne filtrait des reproches qu'ils avaient forcément dû se faire. La confidence de sa mère... et de son peu de vaillance, au moment où Romain paraissait enfin s'accrocher à une vie normale et où Thibault s'en sortait miraculé, lui avait fait craindre une dépression en contre-coup de 2 décennies de soucis constants. Ils avaient un peu bu et étaient restés tard à bavarder dans les fauteuils du jardin. L'arrosage s'égrenait dans les feuillages, soulevant des nuages de moucherons et des moustiques qu'avalaient la fumée noire d'une torche plantée près de la table. Aurore n'avait pas voulu d'aide en cuisine, ni pour débarrasser, ni pour coucher les petits. L'anxiété des mois écoulés s'était figée dans ses traits creusés. Édouard ressortait de l'épreuve avec l'impression qu'il venait de vivre toute une vie ensemble. Il se sentait porté par des sentiments très ancrés. Sa mère l'écoutait, le dos droit, le regard doucement sceptique, les pieds nus décoiffant le gazon humide. Nous nous sommes dit cela aussi avec ton père, que notre couple s'était consolidé dans l'épreuve. C'est pourtant d'abord ce qu'il représentait socialement. C'est d'abord pourtant pour ce qu'il représentait socialement que je l'ai aimé, constata-t-elle avant de se reculer soudain, comme pour le considérer en entier. Et toi, pourquoi l'as-tu aimé ? Alors, aimé et eux, et elle s'autorise enfin à lui demander pourquoi il a choisi sa femme, Aurore, qui est partie coucher les enfants. Mmh. Enfin, tout est donc c'est une mère devenue parlant à son fils adulte qui lui est resté petit garçon.
Enfin,
il y a des petits moments comme ça de lien entre les membres de la famille, mais ils sont quand même assez rares.
Oui, il y a aussi des moments entre Lou quand elle rentre à la maison avec son bébé et justement Édouard qui vient. Ou quand Mathilde va à la maternité. Enfin voilà, il y a des petits moments, mais c'est comme ça que ça s'exprime dans les familles finalement. On passe un petit moment l'un auprès de l'autre, puis d'un coup il y a des choses qui se disent Et c'est, je suis contente que vous ayez choisi ce passage, parce que c'est vrai que je l'aime bien aussi, quoi, cette mère qui parce qu'elle est, elle est conventionnelle, etc., mais elle n'est pas cuculapraline. Enfin, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est là, elle a aussi ce truc. Voilà, parce que l'épouse d'Edouard, elle n'est pas trop aimée dans la famille. Et là, c'est vraiment du conventionnel, alors qu'eux, ils ne le sont quand même pas tout à fait autant. Donc, il y a aussi un peu d'espièglerie et puis de sens critique.
Comme dirait Jacques Chancel, il y a aussi Dieu. Aurore est très croyante.
Oui.
Olivier et sa plus jeune fille ont pris leur distance. Ouais. Daniel continue à croire. Enfin, il y a aussi.
Oui, alors il y a ça. Alors, ça, c'est vrai que pour moi, c'était important. Alors, moi, je ne suis pas croyante et c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, c'est impossible, en fait, me suis-je rendu compte, quand on n'est pas croyante, de comprendre ce que c'est que d'être croyant, et je pense inversement. Ça, c'est l'expérience que j'avais faite, d'ailleurs, qui avait été très intéressante aussi dans ce foyer où j'étais. C'est que tous les autres qu'on appelait bénévoles, enfin, tous les gens qui étaient dans la vie active, qui habitaient là, étaient tous d'une association catholique, très croyants. Et des gens plus croyants que ce que je n'avais jamais rencontré, en fait. Et donc, alors, eux me regardaient, enfin, certains, avec un peu de se demandant ce que je venais faire là, quelle était ma motivation, etc. Et moi, j'étais aussi très intéressée, en fait, par. Et justement, cette idée. Alors, donc, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec eux, parce que j'essayais de comprendre ce que c'était que d'être croyant, parce que ça m'intéressait de rentrer dans la peau de quelqu'un qui est croyant et de faire un personnage croyant, parce que finalement, il n'y en a pas si souvent que ça, enfin. En tout cas, dans la littérature contemporaine, il n'y a pas tellement de croyants. Et en fait, là, alors il y a cette Aurore qui est plus qu'une croyante très classique, très conventionnelle. Ils vont à la manif pour tout, contre l'avortement. Voilà, contre le mariage.
Voilà, oui.
Donc, ils sont très, très traditionnels. Daniel, elle est croyante. Et alors, j'ai vraiment mis longtemps avant d'arriver à me mettre dans la tête de Daniel. Et en fait, je me suis dit, mais le fait qu'elle soit croyante n'empêche pas qu'elle soit un peu en colère contre ce qui se passe. Et finalement, ça m'a donné la clé de ce personnage. Mais effectivement, qui a cette idée d'espérance. Enfin, pour elle, elle ne peut pas abandonner l'espérance qu'un jour, il va s'en sortir. Elle est là-dedans. Et puis Lou, elle est aussi croyante, mais aussi de façon un peu plus conventionnelle, enfin, ou un peu plus censée être peut-être poser énormément de questions. Édouard est très croyant. Et puis, puis aussi d'être dans ce monde, il y a un moment, tout au début, le passage que vous avez lu, je dis que Daniel a l'impression d'expier quelque chose. Et ça, c'était des mots où il y a un moment, Édouard, quand il découvre son frère, le corps de son frère, tellement abîmé par la rue, il dit qu'il a un choc de miséricorde. Et c'est vrai que c'est, je me disais, il n'y a que ces mots-là qui conviennent, parce que ce n'est pas un choc de pitié, c'est vraiment de miséricorde. Et donc, j'étais aussi contente de pouvoir aborder ce vocabulaire-là.
Mais Édouard rencontre sa femme, Aurore, sur ce choc de miséricorde, ouais, sur ce soin qu'ils vont mettre tous les deux à sauver Romain. Mais moi, je vois pas pourquoi la miséricorde ou la compassion, ou aimons-nous les uns les autres, ce serait l'apanage des croyants.
Ah, bien sûr. Enfin, non, tout à fait.
Ça serait bien que ce soit partagé par tout le monde.
Mais d'ailleurs, oui. Mais non, tout à fait. Mais ces mots-là,
miséricorde,
c'est pas un mot qu'on utilise quand on n'est pas croyant. Enfin, et je trouve que c'est un très beau mot, en fait. Et c'est un très beau sentiment d'avoir de la miséricorde. Mais effectivement, il y a, et ça c'est ce que j'avais découvert avec ces gens, c'est que chez des catholiques très croyants, il y a quand même une injonction d'avoir un intérêt pour l'autre. Alors après, moi j'en ai vu qui le faisaient parce que c'était l'injonction, le sentiment profond, on ne le sentait pas toujours. Et puis chez d'autres comme chez moi, je sais que j'ai vraiment aimé les gens avec qui j'ai vécu, je les aime toujours. Et c'est vrai, et effectivement, c'est vraiment des quelque chose de très fort. Enfin, je sens vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Donc effectivement, c'est. Mais il y a cette injonction. Et quand même, elle existe. Et moi, j'ai aimé aussi, d'ailleurs, la plupart des autres étaient plus croyants et plus jeunes que moi. Mais avec certains, j'ai gardé des liens très, très forts. Parce que, voilà, c'était aussi alors, des très, très croyant. Enfin, là, il y en a un qui m'annonce qu'il va se marier. Il a 33 ans et je découvre qu'il est encore vierge. Et sa femme aussi, sa future femme aussi. Et ça, c'est quand même à notre époque, c'est très étonnant. Mais c'est quelqu'un. Alors, sur le papier, on n'avait absolument aucune raison de devenir amis. Il est un peu à droite. Moi, je suis plutôt à gauche. Il n'est pas extrême droite, mais il est assez à droite, très traditionnel. Catholique à fond, informaticien, très rangé, etc. Mais avec cette croix, et puis vraiment, il y a eu une grande réflexion sur ce que ça veut dire d'être croyant et sur ce que ça veut dire qu'aimer son prochain. Et c'est vraiment quelqu'un qui, enfin voilà, ça fait partie de ces gens qui sont là, qui sont fiables, qui sont généreux, qui sont jamais médisants. Et vraiment, j'ai rencontré des très belles personnes, je veux dire.
Alors vous qui n'avez pas cette motivation, quelle est la motive? Pourquoi cette motivation pour habiter dans ce foyer, mais aussi pour choisir ce sujet, enfin,
C'est de l'humanisme, hein, ou je ne sais pas, c'est ça. Puis de l'amour pour les gens. Alors ça, vraiment... et puis comme j'aime... Moi, j'écris parce que j'aime les gens. Ça m'intéresse toujours, ce par quoi les gens passent. Et puis aussi leurs défauts, leurs travers, leurs ambivalences. Tout ça, je trouve ça passionnant. Et j'adore écouter. Et puis les gens ont toujours des histoires. Il y a tout le temps des choses incroyables qui se passent. Enfin, notre condition humaine, elle nous met face à des situations, des drames, des choses comme ça. Donc ça m'intéresse toujours d'entendre ça. Et oui, j'aime les gens. Du coup, ils me le rendent bien. Enfin, il y a quelque chose qui
ils vous racontent.
Oui, ils me racontent beaucoup. Oui. Après, j'utilise pas. Hein. C'est toujours de la fiction. Je m'inspire, mais d'ailleurs, parce que j'avais peur de pouvoir d'éventuellement blesser quelqu'un avec ce livre, donc j'avais fait. Au début, je voulais le dédicacer à certains de ces hommes, et donc j'avais donné à lire à l'actuelle directrice de ce centre, qui avait aussi été bénévole là-bas, qui est une fille que j'aime vraiment beaucoup. Puis je lui avais demandé ce qu'elle en pensait. Puis elle m'avait dit, si tu sais leur expliquer pourquoi tu le leur dédies, il faut le faire. Et puis j'ai hésité. Puis après, je me suis dit, bon, je ne l'ai pas fait. Et il y en a un qui l'a lu. Et il m'a dit, mais c'est très réaliste. Et lui, il n'avait pas une famille qui était aimante derrière. Et il m'a dit, mais finalement, moi, je m'en suis toujours plaint. Mes parents, sa famille savait qu'il était à la rue. Ils n'ont jamais rien fait vraiment pour l'aider. Lui, il avait plutôt un problème de drogue. Et il me disait, mais finalement, en lisant ton livre, je me disais que c'était peut-être plus facile d'avoir une famille qui s'en fout.
Ben, ça dépend si on veut rester au fond du trou.
Ouais, ou oui, c'est...
Eh bien, merci.
Eh ben, merci à vous.
On va peut-être...